3 ordinateurs en 72, 111 en 76, 213 en 81, 500, et puis 87, 56 000, 300 000, 1 million, 2 millions. Et puis, deux choses qui se passent. Al Gore, avec son livre blanc, qu'est-ce qu'il fait essentiellement ? C'est que jusqu'en 91, 92, Internet était réservé au centre de recherche. Moi, je travaillais à Capgemini, j'y avais droit parce que c'était un centre de recherche. Donc, il ouvre l'Internet grand public. Et deuxième truc, ben, l'invention du web, qui a tellement pris le pas que quand on demande, je dis aux gens que le web n'est pas la même chose qu'Internet, les gens me regardent avec des yeux ronds. Voilà. Et puis aujourd'hui, à ça, avec cette carte qui est extraordinaire, c'est la carte des capacités sous-marines. Donc, plus les traits jaunes sont larges, plus il y a de la bande passante. Et pourquoi cette carte est fabuleuse ? Parce qu'elle est superposable. Alors, je ne sais pas si je l'ai à... Non. Elle est superposable avec 15 ans de retard à la carte du transport aérien. C'est-à-dire que, grosso modo, Internet suit le transport aérien avec 10-15 ans de retard. Voilà. Nombre d'ordinateurs aujourd'hui, 600 millions. Google, c'est 1 million d'ordinateurs dans le réseau. Donc, il y a 600 millions d'ordinateurs interconnectés. Et puis, surtout, le chiffre important, 1,4 milliard d'individus. Donc cette techno a réussi en 15 ans à interconnecter 1,4 milliard d'individus, c'est-à-dire 21% de la planète. Et voilà donc pourquoi on est dans une technologie qui est en totale disruption, entre autres. C'est quoi le Web 2 ? Moi je vais dire autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement ? Et il se passe actuellement, entre autres, trois choses. Explosion de l'économie de l'immatériel. La valeur s'est déplacée dans le réseau et le client, le citoyen, le consommateur rentre en co-design, c'est-à-dire veut faire partie du design des produits et des services. Alors certains appellent ça le Web 2. Le Web 2, c'est peut-être la traduction technologique, etc. Mais encore une fois, le Web n'est pas Internet. Le Web, c'est un des services de l'Internet. Mais quand vous faites du Skype, c'est pas du Web. Quand vous téléchargez un email, c'est pas du Web. Quand vous faites du Second Life, c'est pas du Web. Le Web, c'est tout ce qui passe au travers du navigateur. Internet, c'est trois choses. C'est un réseau de réseaux. C'est pas un réseau, mais un réseau de réseaux, donc le support physique. Un ensemble de normes et de protocoles qui sont ouverts à tout le monde. Et un ensemble de services qui peuvent être faits par tout le monde.
Est-ce que le web n'a pas toujours été 2.0 ?
Dans ses gènes, oui.
Est-ce que, en tout cas socialement, l'imaginaire fondateur de ce qui porte finalement cette culture qui pousse l'Internet, là je parle des usages, est-ce qu'elle n'a pas toujours été 2.0 ? C'est-à-dire, si on prend comme loi du 2.0 le contributif, chaque personne peut se joindre, peut contribuer à, que ce soit un discours, un objet, un service. Le fait que chaque personne est à la fois émetteur et récepteur, et puis l'idée que l'ensemble est distribué et que effectivement il n'y a pratiquement plus de tête de réseau. Est-ce que ça, c'est pas avant tout une relation sociale, un modèle, un imaginaire relationnel, et qui fait que quand les technologies disponibles sont arrivées, et là vous avez bien montré les différentes étapes fondatrices, elles ont été reçues par un social qui de lui-même était déjà prêt, si je puis dire, et qui a essayé de se le réapproprier et de pousser cet imaginaire du relationnel, de l'horizontalité, du bavardage, du contournement, etc. Et qui fait que c'est finalement que l'offre, c'est-à-dire que la dimension technologique qui a dû être à la hauteur de ce public-là. Hein ? Et de se déconstruire pour abaisser le niveau, la hauteur de la pyramide pour devenir quelque chose de complètement écrasé, complètement plan. Si tu veux dire.
Moi, je suis presque d'accord. Le presque étant que c'est pas du market pool. C'est-à-dire, c'est pas une demande, les gens qui depuis 1000 ans disent on veut causer et enfin on a la techno. Ça correspond, je suis tout à fait d'accord, à un imaginaire. C'est-à-dire que de tous les temps, ce qu'on adore, c'est causer entre nous. Hein, comme je dis toujours, on a tous de meilleurs souvenirs d'un restaurant pourri avec des gens sympas que d'un restaurant 3 étoiles avec des chieurs. Je veux dire, ça, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est la relation horizontale. Et je pense qu'Internet arrive et favorise cette relation horizontale. Et à ce moment-là, se produit un mécanisme de co-design, c'est-à-dire de constant les retours technologie-usage, 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 que d'ailleurs, et c'est une de mes références, que le roi Gouron a très bien décrit à l'époque de l'homme des cavernes. L'homme des cavernes se fait la technologie dont il a besoin. Mmh. Et à partir de là, ça permet d'éliminer deux aberrations, la technologie Dieu et la technologie Diable. Mmh. C'est en fait un processus de co-construction, grosso modo, on se construit ce dont on a besoin pour progresser, pour franchir une étape. Alors la question, c'est quelle est l'étape qu'on a à franchir aujourd'hui et qu'Internet nous aide à progresser, hein. Mmh. Moi, je vois qu'une vraie rupture pour l'instant, c'est 6 milliards d'individus, quoi.
Mais ça, c'est très intéressant, la référence à le roi Gouron, parce que si on tire le propos vers des exemples qui sont volontairement pas des exemples de l'Internet, mais des exemples de l'appropriation sociale de la technique, on pourrait parler, par exemple, des cathédrales. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire de la construction, si on réduit les cathédrales à un bâtiment, il y a effectivement le fait qu'elles vont prendre de la hauteur subitement, qu'elles vont gagner 50 ou 60% de hauteur. Est-ce que c'est parce que d'un seul coup on aurait découvert des lois du bâtiment, de la construction, qui nous permettent de monter, de hausser le plafond, si je puis dire, de construire des pilastres, des voûtes, etc., qui permettent de faire un objet plus sophistiqué, ou est-ce qu'au contraire, ça n'est pas la nécessité de se rapprocher de Dieu qui fait qu'on va concentrer son énergie psychique sur le fait de devoir donner le signe, rendre visible l'invisible, et de donner le signe de l'élévation. Et auquel cas, à ce moment-là, l'évolution, elle est toute naturelle. Et c'est plus la technique, pour reprendre exactement l'exemple que vous donnez avec le roi Gouron, je crois qu'il parle de codétermination, hein, du social et du technique, et avec probablement à des moments clés l'imaginaire, c'est-à-dire la culture, le social, qui permet de passer la marche. Et il y a aussi ça avec un autre exemple qu'on cite parfois, c'est les années 60, le rapport à la radio par exemple. Dans les années 60, il y a l'invention du poste à transistor. Alors, est-ce que le poste à transistor, c'est quelque chose qui transforme un objet qui avant tout était un meuble, qui était posé dans le salon, qui faisait 150 kilos, qu'on ne pouvait pas déplacer, et comme on ne pouvait pas le déplacer, on l'écoutait en famille, et comme on l'écoutait en famille, le programme qui était diffusé était un programme pour tout le monde. Alors que dans les années 60, il y a en même temps un événement nouveau, c'est l'invention du jeune, qui existe en tant qu'individu, donc en tant qu'imaginaire particulier. Et curieusement, à ce moment-là, le poste à transistor qui ne fait plus 80 kg, mais 300 grammes, peut être un objet qu'on peut emporter loin de l'oreille des parents. Et du coup, il y a là aussi un peu, c'est comme prolonger le roi Gouron, hein, je crois que c'est une bonne... l'idée que le social pousse le technique et le fait exister, et du coup génère aussi une technologie disponible qui va faire passer cette naissance du jeune... De quelque chose d'anecdotique à quelque chose de démographique, carrément, et donc de culturel. Et j'ai le sentiment qu'il y a ça un peu avec l'Internet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de conjonction entre un imaginaire social qui est déjà présent et une technologie disponible, et du coup, cette volonté s'empare de la technologie, déconstruit et reconstruit dans le sens qui est le sien, c'est-à-dire en fonction de son imaginaire, et qui va donner véritablement une orientation au marché et à l'industrie. Et oui, d'ailleurs, quand on accuse finalement le virtuel d'être désincarné, d'être une communication sans le corps, il y a toujours quelque part une corporéité, il y a toujours quelque chose qui prolonge un acte relationnel qui a lieu
Moi, je vais beaucoup plus loin. Le virtuel et le réel se renforcent. Et j'ai deux illustrations. Le premier, c'est la courbe qu'on a vue, où finalement, il y a de la bande passante là où il y a du trafic aérien. C'est-à-dire que finalement, on s'envoie des emails là où on sait qu'on peut prendre l'avion pour se rencontrer. Et je crois que quelqu'un a fait une étude qui a montré que 50% des emails ont pour objectif de se définir un rendez-vous physique. Et donc, ça veut bien dire que contrairement à ce qu'on pense, le virtuel et le réel se renforcent. Et moi, je l'ai vérifié. Hein, dans les années 90, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas d'emails. Moi, je montais des projets européens. On se rencontrait deux jours et... Sur deux jours, la première journée, c'était on se connaissait, quoi. Après l'email, on passait toujours deux jours, mais on s'était déjà connus avant. Et donc les journées étaient remplies différemment. Et j'ai une image que j'aime beaucoup, hein, c'est le temps moyen que passe un citadin dans les transports. C'est une courbe de poisson, hein, mais bon. Le temps moyen, on le sait, est aujourd'hui le même à Londres, à Tokyo, à New York, à Los Angeles, à Paris, à Londres, c'est 1h30, hein, de moyenne. Ce qu'on sait, c'est que c'est le même depuis 40 ans, et les historiens disent que c'est le même depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que le RER, contrairement à ce qu'on pense, ne raccourcit pas les temps de trajet, le RER agrandit la ville. En revanche, ce qui a changé, c'est la quantité d'interactions qu'on a pendant cette heure et demie à exploser. On rencontre plus de gens, on chatte, on SMS, on téléphone, on lit le journal, on regarde les panneaux publicitaires, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que le fondamental de l'heure et demie de transport en moyenne n'a pas changé. En revanche, le contenu a changé. Donc la technologie n'a pas... C'est comme si on avait tous un budget temps, quoi. Et donc ça s'applique à la même échelle macroscopique, au problème près des crises énergétiques, etc., hein, qui est un autre débat, mais dans un fonctionnement, je dirais, où finalement on a toujours la ressource énergétique suffisante pour, il n'y a aucune raison, mais aucune, qu'Internet fasse moins de trajets. Aucune. Il faut qu'on se rende compte physiquement toujours la même quantité. Dans un projet, on a toujours besoin de la même quantité, sauf que cette quantité-là, je pense que ça va servir à éliminer des excès, ça c'est sûr. C'est-à-dire les rendez-vous inutiles n'existeront plus, mais ça n'en... quand on sera au taquet du minimum minimorum, on n'ira jamais au-delà. Enfin, les études le montrent.
Ceci dit, moi je rebondirais volontiers sur l'idée de l'utilité, parce que je pense que l'idée que les relations ou que l'utilisation de la technologie soit orientée vers de l'utilitarisme ou de la fonctionnalité, elle trouve ses contre-exemples. Moi, je me souviens que parmi les premiers travaux universitaires qu'on a fait dans mon labo, on s'est beaucoup intéressé au chat, notamment au chat francophone, qui à l'époque était vraiment en fort développement. Et donc, en plus, nous, on arrivait d'une tradition, enfin, en tout cas, moi et quelques-uns, on arrivait d'une tradition qui était plutôt une tradition littéraire. Donc, pour analyser la nature de la relation qui existe entre des personnes, on a commencé par faire des analyses de contenu. Donc, on a fait de la sociologie participante, c'est-à-dire qu'on a ouvert des comptes dans des salons de chat, et puis on a chatté avec les autres, et puis on a fait des captures d'écran, on a fait des analyses de contenu, etc. Et en fait, on a découvert quelque chose qui était assez troublant pour nous, qui était de voir que les gens passaient énormément de temps à se dire quelque chose qui était finalement assez creux. Et donc, il y avait une substance sur du vide. Donc, il y avait une communication sans information. Une situation un peu paradoxale qui mettait à mal toute la tradition de l'économie de l'information. Jusque peut-être à l'arrivée du web, dans la tradition de la presse, dans la tradition de la télé, dans la tradition de la radio, qu'est-ce que c'est qu'une information ? C'est avant tout une information qui est nouvelle, qui est fraîche, qui n'est pas redondante et qui est vérifiée. Et puis le deuxième présupposé de toute cette plateforme des médias, c'est de considérer que le lecteur est une personne plutôt individuelle et qu'elle est douée d'un jugement critique et qu'elle va poser des questions, elle va détecter les redondances et elle va les éviter. Alors que qu'est-ce qu'on voyait sur ce gros morceau qui a été le chat et qui ne s'est pas démenti avec notamment avec les blogs, en tout cas les blogs d'adolescents, c'était que finalement l'information n'était plus la valeur. La valeur, elle était dans la relation. C'est-à-dire qu'on pouvait réinjecter une information déjà existante ailleurs et c'était pas là qu'était la valeur. La valeur, elle était pratiquement dans le style, dans le lien, dans l'imaginaire finalement. Et puis, entre guillemets, le consommateur, l'usager, c'était plus l'individu isolé, rationnel, mais c'était plutôt le petit réseau d'amis, c'est-à-dire le nuage de points, le groupe, la tribu, dirait Maffezoli. Hein. C'est-à-dire que je ne suis véritablement moi-même qu'à partir du moment où il y a les 2 ou 3 ou 10 autres personnes que je connais qui me constituent d'une certaine manière et qui font que lorsqu'ils sont là, je suis à l'aise pour commencer un événement relationnel, un événement de chat. Et d'une certaine manière, ils me structurent, je me retrouve je me retrouve avec eux, je me constitue par eux en tant que sujet. Et du coup, là, ça pose vraiment la question d'un glissement de qui est l'acteur, finalement, qui est l'acteur de la société. Est-ce que c'est l'individu rationnel qui échange des données et qui a ce vieux fantasme qu'a toujours eu, finalement, la technologie dans notre Occident, c'est-à-dire de domestiquer, de structurer à la fois la nature humaine, la nature environnementale, de structurer la matière, de maîtriser le temps. Et il y a cette espèce de basculement qui fait qu'aujourd'hui, on a l'émergence d'une forme de subjectivité qui est beaucoup plus collective, qui est beaucoup moins dans la prédation, mais plutôt dans le laisser-faire d'être là, le côté ambiental, et de bénéficier de quelque chose qui n'est pas une information substantielle, mais qui est juste un style. Alors, c'est un peu difficile pour nous, j'allais dire, si on essaie d'avoir une approche un peu, oui, un peu. Enfin, moi, je le vois pas dans le rapport à l'université. C'est difficile de considérer que ça peut être une forme de culturelle légitime. Et pourtant, c'est là. Il faut essayer de le penser en se disant que. On le voit par exemple avec les blogs. On a fait avec mon labo une étude sur Skyblog, par exemple, qui est donc l'une des plus grosses plateformes de blogs essentiellement d'adolescents en France, où il y a énormément de blogs qui se produisent tous les jours, etc. Et au début, le présupposé, c'était de dire, bah, qu'est-ce que c'est qu'un blog? C'est la vieille idée du carnet du journal intime, finalement. C'est quelqu'un qui est plutôt isolé et qui va parler de lui ou d'elle. Et qui espère qu'il sera lu, comme l'est toute personne qui commence un ouvrage, que ce soit un manuscrit, un roman ou quelque chose d'autre. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que finalement, le sujet, l'acteur du blog, ce n'était pas une personne, mais c'était plutôt plusieurs personnes. Parce que les gens qui commentent les blogs sont des gens qui eux-mêmes écrivent dans des blogs. Et du coup, il y a un espèce de petit territoire comme ça. On avait même trouvé des espèces de nombres d'or. Plus combien c'était, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était quelque chose d'une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui font exister à un moment donné un événement relationnel qui fait que je me retrouve avec les autres et que je ritualise une relation, y compris avec des gens que j'ai vus une demi-heure avant, y compris avec des gens pour lesquels il n'y a pas de nouveauté véritablement substantielle à apporter, mais c'est plutôt la célébration du groupe tel que nous sommes. Voilà.
Moi, j'allais challenger, c'est un peu la même idée, hein, dans le discours amoureux, que fait un couple amoureux? Il passe son temps à se dire je t'aime. Bon, franchement, en termes de contenu sémantique, enfin de contenu informationnel, c'est pas terrible. D'ailleurs, la preuve, s'il y a quelqu'un, un être extérieur qui les regarde, il les trouve plutôt ridicules, quoi. Et pourtant, sans ces je t'aime, la relation amoureuse ne s'exprime pas, quoi. Et c'est pour ça que moi, pour moi, l'utilité ou l'utilitarisme se niche parfois dans des endroits où. C'est-à-dire que grosso modo, voilà, tout quelque part a un sens, quoi.
Mais la sensation du vide, du vide présupposé ou de l'anonymat accélère je crois que les psys appellent ça l'extime, la capacité de se livrer à partir du moment où on n'a pas un regard qui est un regard qui juge. Et du coup, c'est vrai que souvent l'Internet a permis ça, mais du coup a permis également à retrouver une parole chez des adolescents qui ne trouvaient pas, je dirais. Pour reprendre un mot technique, le protocole relationnel adéquat pour parler. Et du coup, le net par voie détournée a permis à des adolescents de se remettre dans un processus de construction de la subjectivité, de construction de soi, d'expérience et d'enchaînement de paroles qui leur ont permis de reprendre pied aussi avec une réalité affective, etc.
Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai. Bon, on revient un peu au sujet là. J'ai beaucoup étudié les forums de discussion, qui pour moi sont beaucoup plus passionnants que les blogs. Parce que la différence, c'est que dans un forum de discussion, un blog, c'est quand même quelqu'un qui s'adresse aux autres. Dans un forum de discussion, c'est tout le monde qui peut s'adresser à tout le monde. Bon, et on voit des choses passionnantes. Je dirais, pour illustrer, je voudrais donner deux illustrations. La première, pour illustrer la puissance d'un forum de discussion. C'est une histoire qui remonte à 1994. Il y avait déjà des forums de discussion. Et un tel sort le Pentium et il y avait un bug dans le Pentium. Bon, il y avait une chance sur 1 million de tomber dans ce bug. Sauf que quand on a des millions de clients, il y en a un qui tombe dans le bug et manque de bol, c'était un ingénieur. Bon, et le type, il décompile, il avait un tableur Excel qui ne marchait pas. Pas pareil entre l'ancien PC et le nouveau PC. Il se dit, c'est pas possible, il y a un problème avec le Pentium. Donc il envoie un email à un tel. Avec la feuille Excel en pièce jointe, en disant, cher monsieur Intel, est-ce que par hasard il n'y aurait pas un problème avec. Évidemment, la réponse d'Intel, c'est du genre, cher monsieur, nous sommes ISO 9001, n'y pensez même pas, quoi. Bon. Donc, qu'a fait le type? Il est allé sur un forum de discussion. Il a dit, ben voilà les gars, voici ma feuille Excel. Bon. Évidemment, le lendemain, il y en avait des dizaines, des centaines, des milliers qui disaient, ben, je confirme, j'ai aussi le même problème. Et Intel a été obligé de plier, est obligé d'admettre, etc. Et alors, pourquoi cette histoire est fondamentale? Parce que. Les gens qui font la théorie de la connaissance, enfin une des manières d'aborder la connaissance, c'est de dire qu'il y a trois niveaux de connaissance. Il y a la connaissance individuelle, je sais. Donc il y avait un individu qui savait qu'il y a un problème avec le Pentium. Bon. Et puis ensuite, il y a la connaissance collective, tout le monde sait. Et ça, c'est la force de la presse traditionnelle, les médias, la radio, la télé, le quatrième pouvoir, de monter de l'individuel à collectif, tout le monde sait. Mais seulement si un tel avait eu 10 000 clients qui avaient dit il y a un problème, un tel aurait envoyé 10 000 emails. Et le troisième niveau de la connaissance, c'est la connaissance globale. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour un tel, c'est qu'il avait non pas 10 000 clients qui savaient, mais 10 000 clients qui savaient que les autres clients savaient qu'il y avait un problème. Et ça, d'un seul coup, il y a cette connaissance horizontale qui fait que tout le monde sait que les autres savent. Et c'est là où Internet est un média qui est totalement différent, s'il y avait besoin de l'illustrer, hein. Je dirais totalement différent des médias radio-télévision, c'est que d'un seul coup, il permet de passer de la connaissance collective à la connaissance globale. Et ça, ça se traite pas du tout de la même manière. Et donc moi, j'ai beaucoup regardé les forums de discussion, hein. En France, le plus gros, c'est Doctissimo. Doctissimo, c'est 1,4 million de personnes, hein. C'est un nouveau membre par minute, hein, Doctissimo. Et c'est 90 millions de messages depuis 2001. C'est à peu près 2,5 millions à 3 millions de nouveaux messages par mois. Ça vous donne une idée de... Bon, le deuxième, c'est hardware.fr, sur les passionnés d'informatique, mais c'est là où les étudiants comparent leurs études. Et puis le troisième, c'est le forum auto, hein, c'est l'automobile. Bon. Et où on trouve beaucoup de femmes, hein, 50% de femmes sont sur le forum auto.
La connaissance globale, est-ce que vous faites référence aux gens qui parlent actuellement de l'intelligence globale?
C'est une des manières de décrire ça, effectivement. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence... Ouais. Ce qu'on appelle l'intelligence collective aussi. C'est l'idée, finalement, que votre intelligence et mon intelligence et l'intelligence de tout le monde ici n'a plus besoin de passer par un point central unique pour s'exprimer, mais peut aussi s'exprimer dans des relations, ce qu'on appelle peer-to-peer en anglais, un pair à pair. Peer-to-peer que l'industrie du disque a tellement démoli qu'un de mes étudiants de l'ESCP écrivait ça P-I-R-E-T-O-P-I-R-E. Mais c'est exactement ça l'intelligence. C'est-à-dire que finalement, émergent des interactions entre les gens, des opinions, des idées, etc. C'est la force d'eBay. Hein. Quand eBay est né, il y avait d'autres sites de vente aux enchères. Mais eBay, par le mécanisme de notation des acheteurs et des vendeurs, a créé une communauté. Et donc, il s'est passé des choses intéressantes.
Est-ce qu'il y a un style sexué sur les forums ? Parce que ce forum, il y a un style différent des forums de l'éducation que je connais. Ça se sent ou pas ? C'est pas la vigueur ou pas ?
Une bonne question, ça.
Le problème, enfin, moi j'ai c'est une question qui, si je le rapporte à mes terrains, entre guillemets, que j'ai un peu investigué, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que très justement, le thème du genre est toujours une fiction, finalement. Je me souviens, dans ce fameux travaux qu'on faisait autour du chat, on avait fini par sociologie participante, hein, donc en rentrant sur le chat, on repère des gens qui nous semblent intéressants dans la manière dont ils interagissent, et on décide finalement de les approcher pour faire un entretien, on revient de face à face ou par téléphone. Et une fois qu'on a, ça met du temps, et puis une fois qu'on a confiance, que la confiance est établie, on arrive à en rencontrer certains. Et là, on s'aperçoit que bien évidemment, c'est pas du tout la personne qu'on pensait voir, et c'est tout le thème de l'avatar, du pseudo, etc. Mais c'est aussi la grande qualité, je crois, de l'Internet, c'est que c'est avant tout un espace de fiction. On parlait avec Serge tout à l'heure de Rimbaud. le jeu est un autre. C'est là où l'Internet est une technologie qui vient se synchroniser par rapport à un événement qui est un événement essentiellement social avant d'être technologique. C'est-à-dire que probablement que la construction sociale de l'identité, depuis probablement 150 ou 200 ans, était orientée sur une construction, disons, une certaine fixité, disons, de l'identité. On avait une identité qui, d'ailleurs, était souvent une identité professionnelle. Quand on demande à quelqu'un qui es-tu, il dira « je suis dentiste » ou « je suis… » etc. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de l'Internet, les gens construisent des formes de subjectivité en fonction du lieu où ils sont. Donc on peut dire qu'ils ont des différents masques, qui sont non pas des masques qui occultent ce qu'ils sont, mais des masques qui révèlent une partie de leur potentiel identitaire. Et je suis, par exemple, à la fois, c'est la vieille théorie des rôles, hein, je suis à la fois sociologue, père de famille, enseignant, consultant, etc., etc. Et du coup, c'est mon environnement qui va déterminer qui je suis. Quand je suis sur un chat sur lequel tout le monde parle de cinéma, et si je suis là, ça veut dire que j'alimente cette partie de moi-même qui aime le cinéma, qui va commenter des choses, etc., et qui va rentrer d'une certaine manière dans une sorte de fiction, mais une fiction qui est presque une fiction réelle, une fiction qui va développer une partie fondatrice de mon identité. Et du coup, je peux avoir ce masque-là qui rentre un peu comme un caméléon, qui rentre en phase avec un certain territoire, avec un style, avec une ambiance. Et puis, l'instant d'après, ou même de manière synchrone, parce que dans les entretiens qu'on a vus, on a rencontré des gens qui pouvaient avoir jusqu'à 4 fenêtres de chat sur un même ordinateur en même temps, qui, sous 4 pseudos différents, développaient des formes de subjectivité qui étaient différentes. Et on demandait, mais où es-tu? Lequel es-tu? Et je suis l'ensemble de tout ça. Je ne veux pas choisir. Je reviens sur ce que vous disiez. Hein. C'est le « et », c'est pas le « ou », c'est le « et ». C'est la conjonction et non pas l'exclusion, la substitution. Et du coup, cette logique, par rapport à 100 ou 150 ans d'une société qui nous a imposé une manière d'être, que ce soit une identité sexuelle, professionnelle, familiale, politique, souvenez-vous, quand on changeait trop souvent d'idées politiques, c'était suspect. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité, grâce à ces technologies qui facilitent très justement ce côté caméléon, ce côté diversité de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, on a la possibilité de déployer, d'assumer une pluralité qu'on a au fond de nous-mêmes, et qui est peut-être une pluralité qui est naturelle, et qui était contenue dans une société du face-à-face, sur lequel il y avait le « il faut ». Voilà. Je suis à mon travail, je dois porter tel costume, tel code verbal, tel code relationnel, etc. Et à partir du moment où il y a synchronicité, synchronisation entre une forme de construction de l'identité qui se transforme, et peut-être que là, la technologie disponible à ce moment-là, l'Internet, va accélérer ce processus. Et là, on revient à Leroy Gourhan. Ça accélère le processus et ça permet à des gens de faire l'expérience de cette diffraction identitaire et du coup de s'autoriser à avoir ces expériences-là et à augmenter le nombre de ces expériences et à faire de quelque chose qui était exceptionnel une généralité et un marché de masse, finalement. Puisque l'idée du masque, c'est quelque chose qui existait dans les avant-gardes. Moi, je me souviens dans mes travaux, enfin dans ma thèse, j'avais essayé de faire une généalogie de ces moments de diffraction de l'identité, où on voit bien qu'à la fin du 19e, ou dans les milieux, notamment les avant-gardes artistiques, avant-guerre, etc., il y avait ça déjà, ou l'idée de vagabondage identitaire, etc., il y avait ça. Et ce qui est intéressant avec l'Internet, c'est que ça va actualiser, cristalliser, révéler au sens photographique du terme, une vieille structure qui était présente, qui ne demandait qu'une technologie qui allait pouvoir accélérer le processus de révélation. Ce qui est le cas avec l'Internet, finalement.
Et moi, ça m'évoque deux anecdotes. Alors, je vais commencer par celle qui n'est pas belle. C'est qu'un jour, quelqu'un était témoin dans Second Life d'un acte de pédophilie. Et puis, vous savez, sur Second Life, on peut filmer. Donc, c'était un adulte qui était ce qu'il faisait avec un enfant, quoi. Et ce type l'a envoyé à une chaîne de télé allemande qu'il a publiée. C'était un Allemand, hein. Évidemment, gros scandale, pédophilie dans Second Life. Donc, c'est remonté jusqu'à Linden Lab. Et comme on voit les avatars, ils ont vu qui était derrière. Et derrière, il y avait une femme de 50 ans et un homme de 35 ans. Et la question, c'est y a-t-il eu ou pas de pédophilie, quoi? Parce qu'il y a. Bon. Mais alors, maintenant, je vais passer quand même une histoire plus drôle. Une histoire qui se passe dans Mythique. Mythique, lieu de rencontre. Alors, au passage, on connaît le chiffre, hein, entre parenthèses, on connaît le chiffre dans Mythique et il correspond à peu près dans Second Life, c'est 2 comptes par personne. 2 avatars par personne, 2 comptes par personne en moyenne. Et l'histoire, paraît-il vraie, c'est un couple qui se rencontre sur Mythique et qui tombe follement amoureux. Chacun des deux est malheureux dans son ménage. Lui a une femme abominable, elle a un mari insupportable. Et vraiment, tout colle entre eux et c'est le grand amour. Et au bout de 4 mois, ils disent, il faut qu'on se rencontre. C'était le mari et la femme. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'ils avaient le choix de dire, on continue ou on s'arrête, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait aucune vérité absolue, quoi. Ils avaient le choix de dire, ben, finalement, ou alors finalement, non, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, quoi. Mais je trouve cette histoire très belle parce qu'elle illustre très bien le fait qu'il n'y a pas de chaîne de causalité, quoi. On est vraiment dans une espèce de rencontre où chacun des deux, sous une autre identité, aimait l'autre sous une autre identité.
Ce qui revient à cette très belle phrase de Michel Maffezoli, le lieu fait le lien. C'est-à-dire que c'est le territoire, le lieu, le décorum qui va m'influencer, voire même me déterminer à être ce que je suis. Alors que ça, c'est une rupture totale par rapport à notre tradition occidentale qui est le sujet, l'individu qui maîtrise son environnement, qui est indépendant, qui est autonome, au sens presque étymologique du terme, autonomos, ma propre loi, et qui ne veut pas subir l'influence de l'environnement. Il y a un moment presque ironique dans notre société, c'est-à-dire dans la société démocratique, le moment où on est le plus soi, c'est le moment où on est dans l'isoloir, paradoxalement. C'est-à-dire que pour déterminer ce que doit être la société, Je suis tout seul derrière un rideau. Et qui est une situation sociale qui n'existe jamais. Et cette vieille idée du fort intérieur. Que deviennent toutes ces notions de sujet individuel dans notre société contemporaine, dopée justement par des technologies de réseau. Si on reprend l'idée du territoire, l'idée du décorum, qui génère donc, qui structure une identité pour la personne qui vient l'habiter, eh bien, chaque territoire a aussi ses propres codes, ses propres règles. Et on est de toute manière également limité par les interactions qui existent dans ces territoires. Typiquement, l'exemple qu'évoquait Serge, c'est ça, c'est à un moment donné, le type est dénoncé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une loi qui est propre à chaque territoire. Il n'y aura pas une seule morale ou une seule loi transversale pour l'ensemble de l'Internet. L'Internet n'est pas une analogie du marché avec ce fantasme de la transparence. L'Internet est probablement une concaténation comme ça de petits territoires qui chacun ont leur esthétique, leurs règles, leur mode de fonctionnement. Et du coup, quand on traverse tout ça, il faut aussi accepter que un peu comme un vrai voyage, c'est-à-dire que quand on va chez les autres, il faut accepter aussi les règles du lieu, et du coup de traverser des différents codes.
Mais je continue de penser que ce territoire-là doit quelque part répondre au territoire réel beaucoup plus qu'on l'imagine. Et moi j'ai un exemple comme ça qui m'a intéressé, c'est lorsque le commerce en ligne est arrivé par Internet. La plupart des grandes chaînes de distribution, style Fnac ou autre, ont commis la même erreur, c'est que le magasin virtuel est devenu un magasin de plus dont on comparait les résultats avec les magasins réels. Alors le magasin, la Fnac.com, se situe à quel rang parmi tous les magasins Fnac? Et puis un jour, les gens se sont dit, c'est totalement absurde de faire ça. Et il y a des entreprises qui ont renversé la chose, qui ont dit d'abord le magasin virtuel, même s'il vend, doit être là pour aider les magasins réels. Et entre autres, ce que les entreprises ont fait, qui est très intéressante, c'est que toute vente générée au travers du site web est affectée à un magasin physique, qui peut être soit le magasin où on retire l'objet, soit en fonction de l'adresse IP. Et du jour où les gens ont fait ça, en interne dans les entreprises, Internet n'est plus devenu un concurrent, et tous les vendeurs se sont mis à dire aux gens « Mais allez sur Internet, il y a des choses intéressantes, allez voir notre site, etc. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ce territoire virtuel ne s'est plus trouvé en analogie et donc en compétition avec les territoires réels, mais est devenu un lieu de renforcement du territoire réel, d'un seul coup, c'est devenu beaucoup plus simple. Et l'anti-exemple, c'est la SNCF, où, bah, évidemment, moi, comme beaucoup de gens, j'achète mon billet un peu tard, donc je veux aller à un magasin physique. Et au guichet, j'ai une fille qui tord le nez, qui me dit « Ah, vous l'avez acheté sur Internet ? Ben nous, on n'aime pas Internet. » Ah bon, pourquoi ? Parce que nos patrons regardent le basculement des ventes sur Internet et on profite pour fermer des guichets. Et donc, du coup, à la SNCF, c'est pas pour rien que c'est un des sites les plus mauvais qui soit. Hein. C'est un site qui est extraordinaire, surtout quand on n'achète pas du train. Alors, je vais vous donner le truc. Hein. Si vous avez besoin... Comment ? Oui. Oui, parce que c'est Expedia, en fait. Mais en revanche, si vous avez besoin de savoir les vrais horaires des trains, il faut aller sur le site de la Deutsche Bundesbahn, des trains allemands. Et là, vous tapez deux villes françaises, et vous avez tous les horaires effectifs entre ces deux villes françaises. Et vous faites la comparaison, et sur le site SNCF, on vous en donne à peu près les deux tiers, quoi. C'est-à-dire, il y a des trains qui sont cachés, quoi. Mais, et donc, c'est l'anti-exemple, quoi. C'est le virtuel qui est là pour embêter le réel. Alors qu'en fait, le virtuel est là essentiellement pour nous aider à mieux faire le réel. C'est comme quand les gens posent la question « Est-ce qu'Internet élimine la brochure en papier ?» Non. Si vous voulez communiquer avec les gens, vous avez vos clients, vous avez et la plaquette papier et le site web, qui correspondent à deux usages totalement différents. Et c'est pour ça, contrairement à ce qu'on pense, Internet n'a pas détruit le livre. Au contraire, il le renforce. Et que le MP3 gratuit ne casse pas la musique. Au contraire, il la renforce.
Disons, toutes les formes de... Après, il y a des formes de circulation comme ça, de la figure, du leadership, etc. Mais ça met à mal quand même toutes les formes d'expertise, d'autorité. Il y a qu'à voir la presse, ce qui se passe avec la presse, par exemple. Je me souviens de cette une de Libération qui disait « tous experts », et qui disait que ben voilà, à partir du moment où tout le monde peut contribuer, le 2.0, c'est tout le monde peut publier. Et tous les sites sont, tous les sites de presse qui viennent de la tradition de la presse écrite, hein, sont confrontés à ce problème. Quelle place on fait au fameux CGU, contribution générée par l'utilisateur? Il y a eu récemment, là, avec des problèmes sur les événements récents, les événements tragiques récents, disons des sites de presse en ligne qui ont dû stopper les commentaires, puisque ça basculait complètement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quelle place on va faire aux commentaires par rapport au contenu. Tout à l'heure, je parlais de cette espèce de disparition paradoxale du message par rapport à la relation. On voit bien que c'est une tendance qui amène la presse vers des situations très inconfortables. Et en même temps, qui génère une nouvelle forme d'appropriation du contenu, de célébration d'un espèce de territoire identitaire qui peut être un territoire d'échange et qui est complètement, qui s'inscrit en faux totalement par rapport à la vie structure qui était celui qui sait, le sachant, qui injecte un avis, qui est une espèce de vérité, à un ensemble de lectorats qui se tait avant tout. Cette espèce de monologue, le broadcast, et toute la presse cherche quand même le nouveau modèle qui va permettre de trouver un équilibre entre, souvent on le voit dans par exemple le Poste ou Rue 89, etc., où on a le sentiment qu'il y a un déclencheur, il y a un prétexte, il y a un sujet qui est injecté comme ça dans un environnement où les gens sont disponibles et connectés, et qui va générer une espèce d'effervescence.
Oui.
Une espèce d'effervescence sur lequel on perd beaucoup, quand même.
Il y a une chose, d'abord, sur le plan historique, le forum a été inventé bien avant le web, hein, puisque les premiers forums de discussion, c'est 76 de mémoire, c'était ce qu'on appelle la hiérarchie des newsgroups, hein, les news, quoi. Qui avait quand même une spécificité, c'est qu'il n'y avait pas besoin de s'inscrire. Hein. Il n'y avait pas de modérateur, pas besoin de s'inscrire. Bon. Beaucoup de gens ont quitté les newsgroups, parce que justement, c'était plein de ce qu'on appelle des trolls, hein, des types qui étaient là pour foutre le bordel, quoi, grosso modo. Et que justement, il n'y avait pas ce concept ni d'animation, ni de modération, vraiment, hein, puisque tout le monde pouvait arriver. Bon, moi, je suis intéressé, parce que j'ai quand même toujours vu dans les forums, au minimum, un modérateur, ou un ou des modérateurs, un ou des animateurs, etc. Pour répondre à la question, là, je crois quand même, d'abord, je ne crois pas au monde plat et horizontal. The world is flat, non, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que l'autorité de l'expert désigné est devenue l'autorité du blogueur que la foule encense, hein, et, ou aime bien, ou etc. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que beaucoup de journalistes sont des blogueurs aussi. Hein, et que finalement, tout le problème, c'est le problème du business model qui est par derrière. Et je crois que le business model aujourd'hui, ce dont la presse souffre, c'est qu'aujourd'hui, de toute évidence, le contenu est gratuit et doit être gratuit. En revanche, l'usage du contenu, c'est-à-dire utiliser du contenu pour résoudre un problème particulier dans le cadre d'une offre de service, ça c'est payant. Mais, et ce qui est marrant, c'est que, pour revenir au chapeau communautaire, hein, en 1984, Libé a fait une étude de marché, parce que Libé avait des problèmes, alors Libé c'est récurrent, bon. En 84, ils ont fait une étude de marché, pourquoi les gens achètent Libération, à votre avis? Quelle était la raison numéro 1 en 84 d'achat du journal Libé?
Le billet du lundi?
Non, c'était le courrier des lecteurs.
Ah oui, ben voilà.
Or, qu'est-ce que c'est que le courrier des lecteurs? C'est l'ancêtre du forum de discussion. Ouais. Alors, à l'époque, Libé, ça les a déprimés. Ils se sont dit, bah, finalement, à quoi servent nos contenus? Mais ce qu'ils n'ont pas vu à l'époque, c'est que celui qui écrit dans le courrier des lecteurs de Libé n'ira jamais écrire dans le courrier des lecteurs du Figaro. C'est-à-dire que le contenu de Libération servait de chapeau communautaire, c'est ce que je disais au début. Et donc le contenu, le rôle du contenu, et c'est Rue 89 et c'est les autres, et avant tout d'Agoravax, de servir de chapeau communautaire,
ça, faire un esprit.
Pour que les gens qui ont des choses à dire s'y sentent bien, s'y sentent à l'aise, et aient envie d'échanger sur le chapeau. Et c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'une part de verticale, besoin d'experts, etc. Mais simplement, ce qu'Internet met à mal, c'est l'expert désigné qui s'est encrouté. Et c'est ça qu'Internet bouscule un peu. C'est finalement, il n'y a plus d'ordre établi, il n'y a plus de gens qui sont là et qui sont inutiles ou dont le contenu... Etc. Mais finalement, les journalistes sont devenus des blogueurs, quoi. On
n'a
pas mis le monde totalement en horizontal. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que la capacité d'échange horizontaux a explosé. Et moi, j'avais étudié le Roi Merlin, les forums de discussion. Ça, c'est passionnant parce que le Roi Merlin était un des premiers. Et le BHV a fait la même chose, Eric Cyberbricoleur, mais a été le premier à mettre des forums de discussion sur son site. Et le Roi Merlin avait pris deux précautions. Premièrement, nous, le Roi Merlin, nous n'y interviendrons pas. On a d'autres canaux si on veut communiquer, mais ce forum pour les bricoleurs. Et deuxièmement, et ça c'est très intelligent, c'est que la structure du forum était usage et pas technologie. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un forum sur le tournevis, un sur le marteau, un sur l'échelle, ils auraient eu ce tournevis, il vaut rien, ce marteau, il marche pas, il est trop cher, etc. Non, c'était retaper sa maison de campagne, l'électricité, la salle de bain. Et là, comme le chapeau communautaire était d'usage, les gens ont énormément échangé en termes d'usage.
Je suis tout à fait ce que vous dites, et je pense qu'il faut rajouter peut-être la notion de... la notion du nombre, en fait. Il y a une espèce de nombre d'or, quand même. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pour revenir sur cette question, les gens s'insultent ou pas, ou la modération, c'est-à-dire le lien social, finalement, qui existe dans un espace de ce type, qui est d'une certaine manière une communauté virtuelle, qui est le début de la communauté virtuelle, pour qu'il y ait une certaine forme de cohésion. Je pense que c'est un rapport à l'immédiation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de masse, un nombre à ne pas dépasser. Au-delà, parce que les gens se connaissent, les gens sont dans une forme d'intimité partagée. Et dès lors que le nombre augmente, c'est là que advient le problème, l'injure, l'insulte, etc., ou même l'anonymat. Et du coup, ça c'est ce qu'on a vu par exemple chez Facebook, chez Copains d'Avant, etc., qui l'année dernière, à un moment donné, ont été victimes de leur succès, obligés... quand la fréquentation a commencé à se tasser un petit peu, obligé de reproduire une espèce de gravité à l'intérieur du groupe, de reproduire une intensité, de reproduire un effet d'effervescence. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'ombre de l'ennui qui émergeait. Et tout simplement parce que quand il y a trop de monde, ça n'a aucun sens d'avoir, je sais pas, 5000 amis sur Facebook ou sur MySpace.
Ah, il y en a qui cherchent. Twitter, sur Twitter.
Ouais, sur Twitter. J'ai entendu l'autre jour, hier matin, je crois, à la radio, que Obama avait 3,5 millions d'amis. Alors là, il y a une figure charismatique. Mais si, chez tout un chacun, une fois qu'il a dépassé 500, ou je dirais même 30 personnes ou 100 personnes, de toute manière, il s'engage dans une relation avec ces personnes-là qui ne sera pas du tout une relation d'intimité. Et à ce moment-là, émerge le risque que ces personnes lui... soit l'injurie, soit abandonne l'espace, etc. Et du coup, on n'est plus dans cette forme de cohésion, et probablement qu'il faut, c'est ce qu'a fait Facebook et Copains d'Avant, quand le nombre est trop important, il recrée une nouvelle couche, des sous-communautés, en fait, pour que l'expérience de la personne reste dans une forme de densité avec l'autre. Sinon, c'est exactement comme les pages jaunes. Quand tout le monde est dans les pages jaunes, je ne vais pas... feuilleter et me dire, voilà, j'appelle quelqu'un, allô, oui, tu es dans ma communauté de la page jaune, ça n'a aucun intérêt. Alors que le seul moyen d'être en relation avec une personne, c'est d'avoir un imaginaire commun. Et là, je reviens sur ce que vous disiez, Serge, l'idée du chapeau. C'est qu'il faut avoir ce prétexte-là qui n'est qu'un déclencheur, mais qui est nécessaire, comme si on revient sur la presse, par exemple, il faut qu'il y ait le j'étais dernièrement là sur... sur Libération, notamment cette version bêta de l'IB+, qui construit donc des communautés de gens qui sont les commentateurs d'articles, où on parle plus du tout de l'article initial, mais il a fallu quand même une impulsion. Par exemple, en ce moment, il y a l'idée de la grève du 29, etc. Et ça génère des espèces des discussions, et on se détache au bout d'un moment de justement du chapeau, du prétexte. Et du coup, l'information initiale devient juste un prétexte à une effervescence, c'est-à-dire une ritualisation, une socialité ambiante, dès lors que les personnes sont dans un nombre d'or qui est respecté, et au-delà duquel on bascule dans des choses violentes, comme il y a dans tous les systèmes où on est totalement anonyme, où ça bascule soit dans l'injure ou des choses comme ça. Il y a eu dernièrement là, l'affaire, ce support qui s'appelle Le Tigre, qui a reconstituer toute la vie d'une personne en fonction des données privées qu'il avait déposées sur les différents sites donc Facebook, Twitter, etc., et qui a fait un article qui a reproduit toute la biographie de la personne en fonction des données qui étaient tout simplement disponibles. C'est assez drôle de voir à l'heure où on parle de Edwige, le fameux fichier policier, auquel on reproche d'être beaucoup trop précis, c'est très intéressant de voir que à côté de ça, les gens sont capables d'injecter toutes ces données privées à fond perdu.
C'est pas ça qui définit, en tout cas, c'est pas ce paramètre-là qui définit.
Mais par contre, je vous suis totalement dans l'idée qu'il y a une pluralité de petits territoires, quel que soit le nombre de personnes le nombre d'amis, entre guillemets, le nombre de personnes avec qui on est en relation, le fait d'avoir plusieurs espaces dans lesquels on développe des formes de subjectivité qui sont spécifiques à chaque lieu, c'est aussi une forme de respiration, de liberté, d'avoir des lieux très différents. Et c'est pour ça que je pense que l'Internet est avant tout une machine à produire du secret, c'est-à-dire une machine à établir des cloisons entre des espaces de telle manière à respecter la configuration et la singularité de chacune de nos expériences de subjectivité. Ce qui gêne, encore pour revenir au cas de cette personne qui retrouve toute sa vie rassemblée dans un seul article sur le Tigre, ce journal qui s'appelle Le Tigre, ce qui gêne probablement la personne, c'est d'une part de s'apercevoir qu'il a donné, bien entendu, toutes ses données privées, mais peut-être de voir aussi qu'il a donné des éléments qui étaient contextuels, qui étaient en phase avec, avec quelques personnes. Et d'un seul coup, le fait de rassembler en un seul territoire la pluralité de son identité, c'est peut-être ça qui est très, très encombrant pour lui. Le fait de... Il y a des lieux dans lesquels on se confie sur lequel on ne veut pas que... Donc il y a l'idée de cloison et revient, l'idée de territoire étanche, ou avec des formes de porosité qui sont assez... qui doivent être maîtrisées. D'ailleurs, dans Facebook, on maîtrise auprès de qui on veut apparaître. Et en fonction du statut des personnes, on a le choix de type de données qu'on laisse transparaître. Alors, les gens n'y vont pas. C'est pour ça qu'il y a des surprises. Mais globalement, la plupart des gens sont conscients de ça. En tout cas, certains sont conscients et ils filtrent. Ils adaptent en fonction de la situation sociale. L'interaction ou l'expérience subjective sur l'Internet, c'est quand même quelque chose de singulier. Il y a toujours la notion de cette corporéité qui passe par justement l'avatar, qui passe par le langage, par exemple l'oralité du langage, qui est une forme de présence du corps dans l'écrit, mais qui en même temps renvoie à soi-même. Il y a toute une forme de fiction, toute une forme d'intériorité qui joue et qui fait qu'on n'est pas toujours stoppé par le code social ou par le corps de l'autre, tout simplement. Et du coup, on a tendance, effectivement, à se sentir à l'abri.
C'est-à-dire qu'un avatar, c'est une représentation humaine d'un dieu sur Terre. Hein. Donc c'est Vishnu qui a eu 10 avatars, hein. Krishna en est un, etc. Bon. Donc il ne faut pas oublier qu'avatar, c'est avant tout quelque chose qui vient du sanskrit.
Ça peut éventuellement aider certaines personnes. Encore une fois, je trouve qu'il y a deux choses à distinguer. C'est le fait de ne pas devoir montrer son corps, donc d'avoir un nouveau corps numérique qu'on peut moduler, etc. Et dans cette partie-là, il y a une démocratie qui est complètement ouverte. C'est-à-dire il y a toute la liberté, disons, pour la vie.
Oui, voilà.
Toute la liberté, en fait, de représentation, de gestion et tout ça. Mais par contre, il y a une autre chose dont je trouve que c'est indispensable de faire la différence, c'est la langue. C'est-à-dire que lorsque le corps n'est pas là, c'est la langue, le langage qui remplace le corps. Et là, c'est l'arme fatale. C'est-à-dire que la langue porte toutes les singularités qui témoignent d'une culture, d'une éducation, d'une position sociale, etc. Et là, tout d'un coup, si le corps numérique en lui-même, il avait toute liberté, lorsque la langue intervient, à un moment ou à un autre, on va finir par se dévoiler.
Vous savez, je me souviens toujours, j'ai participé une fois au téléphone sonne, et entre autres, c'était sur le langage des ados, le langage des chats, des SMS, etc. Alors évidemment, tout le monde disait, qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est la fin de la culture et hein, c'est quoi, LOL, enfin, vous connaissez mieux que moi, tout ça. Et je me souviens d'une fille qui était intervenue et qui avait dit, bah, écoutez, moi je suis agrégé de philosophie, et j'ai énormément utilisé ce langage, donc vous voyez que, un, ça ne m'a pas empêché de devenir agrégé de philo, deux, je peux vous dire que c'est extraordinaire pour prendre des notes en cours. Et d'un seul coup, on s'est regardé, on s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr, ça s'appelle la sténo. Ça s'appelait la sténo. Mais comme quoi, quelqu'un qui est agrégé de philo peut très bien, dans le contexte d'agrégation de philo, bien écrire, et dans le contexte de... Etc. Moi, j'ai dit à mes enfants très clairement, je leur ai dit, quand tu m'envoies des textos, quand tu envoies tes copains, tu fais ce que tu veux, mais avec moi, je veux pas du... LOL. Je veux pas du LOL. Moi, je suis ton père, avec moi, et ce que je voudrais essayer de leur apprendre, c'est que, d'abord, pour moi, une plus belle leçon d'Internet, ça illustre bien le fait, c'est qu'il n'y a de vérité que contextuelle. Hein, c'est-à-dire que finalement, voilà, hein, je veux dire, je peux sans problème mettre Al Jazeera sur un site web, CNN sur le site web, et avoir deux points de vue totalement contradictoires et différents du même conflit, mais c'est moi qui choisis. Donc, où est la vérité là-dedans ? Elle n'est plus que contextuelle en fonction de la chose, quoi. Et donc, du coup, il n'y a de langage que contextuel, etc. Alors, c'est vrai qu'on... Bon, moi, ce que j'aime dans les mondes virtuels, c'est qu'on peut faire parler les corps. Hein. On peut les faire parler.
Et pour revenir sur le langage, s'il y a aussi... L'Internet a permis aussi un accès au langage qui était, notamment dans les situations difficiles, dans des environnements où je pense aux jeunes défavorisés, ou les jeunes qui étaient dans des contextes où la langue était une barrière, etc. Ça a décoincé beaucoup de situations. Ça a permis d'accéder, de désenclaver et d'accéder, ça a permis l'accès à la relation, je ne parle même pas du langage, mais de la relation, à énormément de... Voilà. Et le langage a suivi, finalement. C'est pour ça que le langage, c'est curieusement le langage véhiculaire et le langage qui permet d'aller le plus rapide, pour revenir... parler de la sténo, bien sûr. Finalement, le langage est aussi celui qui s'adapte à une forme de relation sociale.
Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on produit du même ou est-ce qu'on ne produit pas quelque chose dont on se persuade que c'est du même, mais qui n'en est peut-être même pas, finalement. Je veux dire, c'est... Je me souviens du jeu, hein, on jouait tous à ça quand on était gamin, le téléphone arabe, là. Hein. On glisse un message à l'autre et puis il ne faut pas 10 personnes pour que le message n'ait plus rien à voir, quoi. Pardon.
Il y a toute la question aussi de la transformation et de la nouveauté, parce que derrière tout ça, il y a la question du copier-coller, finalement, de cette esthétique du mix, en fait, d'échantillonner les choses et de les recomposer dans un ordre différent, tout en gardant un espèce de paradigme qui est assez harmonieux, qui est pratiquement le même. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi de l'innovation, qu'il y a aussi de la création, dans ces modes de déconstruction, reconstruction et les formes de nouvelles appropriations à partir d'éléments qui sont les mêmes. Y a ça, on le voit ça dans le domaine de l'art contemporain, par exemple, depuis une quinzaine d'années, on voit ça dans le domaine de la musique, où s'il n'y a plus de production nouvelle, à partir d'un corpus existant, en échantillonnant dans d'une manière différente, à la fois on produit du même à partir du nouveau avec du neuf, si je puis dire, quoi. Mais ça produit quand même la célébration et le rituel relationnel qui fait que ça produit de la cohésion culturelle quand même. Ça produit du relationnel, ça produit un moment par lequel, comme disait Durkheim, hein, contre l'étiolement d'un groupe, c'est-à-dire le délitement de la relation sociale, on reproduit quelque chose que tout le monde connaît par cœur et qui pourtant va fédérer le groupe. Voilà. Pour je ne sais plus quelle est la formule, mais pour redire le sentiment que le groupe a de lui-même. Voilà. Donc on va reproduire du même.
Moi, pourquoi j'ai fait faire ce petit machinima, parce qu'au début, quand je faisais des démonstrations de Second Life, j'étais tout seul et c'était pas très intéressant. Et un jour, je me suis aperçu que ce qui est extraordinaire, c'est que ça illustre bien les propriétés Internet, c'est-à-dire qu'on parle d'interaction avant tout. Le Facebook, par exemple, ou tous les réseaux sociaux, on imagine des annuaires de personnes, pas du tout, c'est des annuaires de liens. C'est-à-dire que l'entrée, c'est pas qui je suis, mais avec qui je suis copain, avec qui je partage tel truc, avec qui j'ai mon wall, avec qui, etc. Au passage, quand quelqu'un quitte Facebook, c'est dramatique, parce que c'est pas une personne, mais c'est tous ces liens qui sont perdus. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement, quand vous êtes sur Internet, faut pas voir Second Life par rapport à la vraie vie, mais faut voir Second Life par rapport aux outils du web. Quand vous êtes sur Internet et que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un, bah, soit vous êtes à distance, bah, je peux vous assurer, tiens, tu cliques à gauche, et puis tu appuies sur le bouton jaune, et puis au bout de 5 interactions, vous êtes totalement désynchronisé. Je veux dire, essayez donc au téléphone de faire avec quelqu'un, ou d'avance, mettez où, mettez sur quelle page, mettez à cliquer sur quoi, et on vient en arrière. Bon. Ou alors, il faut être physiquement présent, ce qui est vraiment pas terrible. Ce qui est extraordinaire dans les outils des mondes virtuels, c'est que justement, d'un seul coup, on enlève la contrainte de la présence physique. C'est-à-dire que finalement, mon avatar peut rencontrer un autre avatar et on peut faire quelque chose sans avoir besoin d'être physiquement présent. Et d'ailleurs, j'avais prédit quelque chose qui est en train de se révéler, c'est que IKEA va bientôt mettre son simulateur de cuisine dans un monde virtuel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous téléchargez le simulateur de cuisine IKEA, le but, c'est pas de faire ma cuisine, c'est de le partager avec ma femme, mon ami, mon conjoint, mon mari, mon père, mon copain qui est un bricoleur de génie, etc. Ben oui, mais il faut être physiquement présent. Voilà. Tandis que là, j'invite l'avatar de l'autre, et l'avatar de l'autre et moi, nous interagissons. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, cette interaction, ce que je leur ai demandé, c'était d'illustrer le fait qu'elle était à la fois dans le rationnel et dans le sensitif, et dans le sensuel et dans le sensible. C'est-à-dire que pour moi, ça correspond à une, je ne sais pas si c'est utopique ou pas, mais je pense que le monde à venir devrait être construit sur la cohérence cerveau gauche, cerveau droit. La cohérence entre le rationnel et l'irrationnel, ce que j'ai vu dans les forums de discussion de thyroïde, où il y avait les deux, mais les deux en cohérence. Hein. On est dans un monde totalement décohérent. Hein. La banque qui vous dit « je vous aime », et puis dès que vous passez au contentieux, qui vous dit « va te faire foutre ». Quoi. Bon, donc on est dans un monde où les gens n'ont aucun problème à avoir de discours contradictoires. Et je pense qu'au contraire, il faut apporter plus de cohérence. Et il s'est passé un événement qui, pour moi, a parfaitement illustré ça. Cet événement s'est produit il y a un an à peu près. Je me promène sur l'île d'IBM, et d'un seul coup, je vois des gens avec des pancartes. Et en fait, l'histoire est la suivante. La direction d'IBM Italie avait décidé unilatéralement de sucrer des primes qu'ils avaient promis à leurs salariés, et les gens étaient furieux. Ils ont commencé par faire un site web en disant « la direction d'IBM Italie se moque de nous », etc. Tout le monde s'en contrefou. Voilà. Et d'un seul coup, il y en a un qui a une idée géniale, c'est que IBM utilise Second Life pour faire des réunions. Ils disent que c'est un environnement extraordinaire pour faire du travail collaboratif. Et ils sont venus manifester dans Second Life. Il y en a même un qui est arrivé dans une réunion où il y avait des managers, il a téléporté tous ses copains, ils sont tous arrivés, au bout d'un moment les managers ont été obligés d'arrêter la réunion, ça a été la foire. Eh bien la direction d'IBM Italie a plié. Et c'est une très belle histoire parce qu'elle illustre très bien le fait que finalement, ils ont trouvé un média à la fois collectif, hein, qui faisait un effet de masse, hein. Je veux dire, c'est impressionnant quand vous voyez tous les types qui est là, « We'll not go until the contract is signed », enfin, « IBM trash is... » Et c'est vraiment, c'était des vrais discours. Mais ils ont en plus touché du doigt la corde sensible, quoi, sans avoir besoin d'être physiquement présents ensemble dans la rue. Ben, pour moi, c'est une illustration du fait que nous avons probablement dans les mondes virtuels un des futurs du web, c'est-à-dire un des futurs lieux d'expression de tout un tas de relations qui seront à la fois sérieuses et sensuelles et sensitives, et qui etc. Quoi. Et c'est pas du tout un, et c'est un endroit qui va renforcer la vraie vie, je suis persuadé. Alors, Second Life a eu une qualité extraordinaire, c'est de faire le buzz autour des mondes virtuels. Alors, pour information, Second Life, ça doit être 15 millions d'avatars, dont 500 000 qui sont vraiment actifs. C'est le plus grand de tous les mondes virtuels pour adultes, mais dès que vous allez chez les ados, bon, Habbo Hotel, c'est 110 millions d'avatars, Neopets, c'est 90 millions d'avatars, mais non, 150 millions d'avatars, mais 220... Non, 150 millions de comptes et 230 millions d'avatars. Barbie Girl, qui est née au mois de septembre l'année dernière, c'est 1 million de nouveaux comptes par mois. Donc, chez les ados, ça... Et puis, chez les ados, et puis aussi en Corée du Sud... où il y a un quart de la population coréenne qui est dans un monde virtuel, Side World, et 90% des teenagers. Quoi. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Linden Lab, qui est l'entreprise qui a fait Second Life, était une entreprise de technologie, qui était là pour vendre une technologie. Et Second Life n'était censé être qu'une illustration des possibilités de la technologie. Sauf que le patron, il s'est pris la grosse tête, il a voulu faire comme Deuxième Monde, il a emmené tout ça dans un délire, et ce délire, il est allé très loin. Bon. Ce qui s'est passé, c'est comme je dis toujours, parmi les investisseurs de Linden Lab, il y a quand même Mitch Kapor qui est le fondateur de Lotus, il y a quand même Jeff Bezos qui est le fondateur d'Amazon et Pierre Omiyad qui est le fondateur d'eBay. Bon. Quand vous avez trois pointures comme ça à votre board, que vous ajoutez ça avec cette extraordinaire capacité américaine de faire un stop et puis de dire bon maintenant on délire, on repart sur un business model tout à fait différent, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le PDG fondateur a été un peu mis à l'écart et on a fait venir un autre. Et maintenant, on lui a donné l'ordre d'explorer le marché juteux qui est celui des entreprises. Et donc, c'est essentiellement tout ce qui est travail collaboratif, apprentissage. Alors ça, c'est extraordinaire. La liste d'universités qui donne des cours dans Second Life, c'est extraordinaire. Il y a un site, SimTeach, S-I-M-T-E-A-C-H. C'est un de ceux que je cherchais. Et ce site-là recense toutes les universités du monde entier qui utilisent essentiellement Second Life. Hein, mais il y a des concurrents qui arrivent. Ah, il y a déjà eu des colloques d'organiser. Hein. Moi, je suis allé à des conférences dans Second Life. Hein. Simplement, Second Life, c'est programmé comme du cochon. Quoi, hein. Je veux dire, sur le plan informatique, ça vaut rien du tout. Quoi. Donc, usage numéro un, l'apprentissage et le travail collaboratif.
Malheureusement, donc nous avons tendance à transposer des choses dans le monde virtuel, et ça peut être bien ou ça peut être mal, mais ce qui est dommage, c'est que parfois, on s'encercle nous-mêmes dans certaines choses, dans certains stéréotypes qui n'ont aucune raison d'être, finalement. Parce que, justement, on parle d'Internet comme un endroit dans lequel l'action de représentation du soi, etc., qui est plus grande, alors que parfois, pas du tout. Mmh. Donc, comment on s'en sort de ça? Comment on va plus loin?
Parce qu'on retombe toujours dans un espace qui est un espace social. Et comme tous les espaces sociaux, il y a des codes qui sont ceux qui appartiennent de manière plus ou moins décidée ou plus ou moins équilibrée à ce territoire-là. Et la fonction de bannir, c'est aussi une manière de, une manière de produire une forme d'équilibre entre les gens qui sont là. Donc oui, c'est de produire une identité collective.
On va dire, oui, bon, on va voir si lui il est noir, on va aussi le bannir. Ouais. Après, on va voir si lui il dit des gros mots, on va le bannir. Après lui, on va voir s'il couche avec cet avatar et cet avatar-là. On va le bannir aussi.
Sauf que la possibilité des mondes virtuels, c'est aussi de produire un monde où on est tous nus, par exemple, où on est tous ceci, tout cela. Donc il suffit de changer, il suffit d'aller un peu plus loin. Et c'est aussi le bon côté de créer une île, par exemple, on reste dans Second Life, mais où. Je pense qu'il y a, c'est peut-être plus facile.
Îles de nudistes, oui, il y a des îles de nudistes. Hein. Ouais. Moi, je crois que, encore une fois, moi, je reviens toujours à ma marotte. C'est un outil de simulation et d'apprentissage. Si vous n'avez pas un minimum de rétroaction sociale, on n'apprend rien. C'est tout. Ouais. Voilà.
Mais c'est la difficulté qui crée justement le.
Elle est dans les deux sens. C'est-à-dire, autant, bon, il va falloir accepter qu'on ne peut pas se promener tout nu, autant parfois, il faudra peut-être accepter que les gens se promènent tout nu.
Non, non, je vais vous le dire autrement. Celui qui l'a beaucoup mieux formalisé ça, encore une fois, toute vérité n'est qu'au contextuel, c'est quand Le Pen a été reçu par Desproges, au tribunal des flagrants délires. Et qu'est-ce que Desproges, qui est un homme intelligent, peut dire à Le Pen, qui est là, c'est aussi un homme intelligent, hein. Eh bien, Desproges a dit la chose suivante. Monsieur Le Pen, quand on vous voit, on vous entend, on se pose deux questions. La première, c'est peut-on rire de tout? Ben oui, monsieur Le Pen, on peut rire de tout. Des juifs, des arabes, des immigrés, du Front National, des fachos, etc. La gauche, la droite. Voilà. La deuxième question, c'est peut-on rire avec n'importe qui? Là, je dis non, monsieur Le Pen, on ne peut pas rire avec n'importe qui. Ben, je crois que c'est ça que ça illustre, hein. C'est que, finalement, ce qui a du sens, c'est l'interaction. Et moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est fais gaffe, parce qu'il y a des contextes qui sont accidentogènes. Ce que tu peux dire dans un contexte, tu peux pas forcément le dire dans un autre contexte. Donc si on peut se promener nu dans un contexte, ça veut pas dire qu'on peut se promener nu dans tous les contextes. Et ce qui est intéressant dans Internet, dans les mondes virtuels, c'est que ça met bien en jeu les contextes et les interactions entre les gens. Et je pense que c'est en ça qu'il faut que ça continue d'être un lieu d'apprentissage et de rétroaction sociale. Oui, je peux me promener nu, mais pas avec n'importe qui. C'est mon credo. Hein. Vous n'êtes pas forcé d'adhérer, mais...